La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, oraison, mystique et connaissance. Comment les trois peuvent-elles se conjuguer? Trois notions, trois façons de vivre. Bonjour, nous avons regardé dans les deux séances précédentes comment Jacques Maritain, avec Raïssa, envisage la vie d'oraison par rapport à la liturgie, par rapport à la contemplation. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un texte majeur, intitulé « Les degrés du savoir distingués pour unir », dans lequel la mystique a une dimension cognitive. Avec un tel titre, « Les degrés du savoir », vous vous doutez que Maritain va parler de différents niveaux de connaissance. Il va y avoir différents degrés d'intellection et d'abstraction. On peut dire que les sciences expérimentales vont constituer le premier degré de connaissance, avec la mathématique, qui est une science fondamentale, on rentre dans un deuxième degré d'abstraction, et le troisième degré est laissé à la métaphysique. Rappelons la division en plan pratique et en plan spéculatif pour Maritain, division héritée d'Aristote, qui permet de dire que la finalité du plan spéculatif, c'est la connaissance de l'être, et la finalité du plan pratique, c'est l'agir, divisé en deux, l'agir au sens de la morale, c'est-à-dire l'agibilé, et l'agir au sens de la création, de l'œuvre d'art, c'est le factibilé. Les deux finalités du plan spéculatif et du plan pratique ne sont pas les mêmes. Mais pour connaître, il y a d'autres voies que le troisième degré d'abstraction, que la connaissance métaphysique est considérée comme la science la plus haute parce qu'elle est la plus universelle. Un autre moyen de connaître, c'est la connaissance par connaturalité. Et cette connaissance par connaturalité se développe de manière éminente dans la mystique. Je vous propose un petit parcours des degrés du savoir en partant de la préface et en allant jusque dans les derniers chapitres où Maritain va s'appuyer sur Saint Jean de la Croix, sur l'inhabitation des dons de l'Esprit-Saint, sur la vie de la grâce, pour montrer comment la mystique elle-même peut prétendre à une certaine forme de connaissance qui n'est pas moindre que les autres. C'est tout à fait remarquable d'avoir cet ouvrage qui propose justement de mieux comprendre, c'est tel est notre enjeu depuis le mois de septembre, cette articulation entre philosophie et théologie, entre intelligence et foi. Alors regardons un petit peu ce que dit Maritain dans sa préface. Le titre de cet ouvrage, donc je rappelle, « Distinguer pour unir ou les degrés du savoir », en dit assez le dessein. La dispersion et la confusion sont également contraires à la nature de l'esprit. Personne, dit Toller, n'entend mieux la vraie distinction que ceux qui sont entrés dans l'unité. Et de même, personne ne connaît vraiment l'unité s'il ne connaît aussi la distinction. Ces quatre premières lignes sont tout à fait remarquables parce que Maritain fait appel à un mystique rhénan, Toller, et la distinction et l'unité sont articulées à partir de ce point de vue. On le sait, l'un reste chez Platon la quête première de la philosophie, d'où la séparation entre les formes et les idées. Les idées permettre d'atteindre l'un, ce sont les essences, elles sont éternelles, et le monde de la matière, lui, est dispersant. Donc autour de cette question de l'unité et de la diversité, finalement, le point de vue de la mystique a aussi son mot à dire. L'idéalisme a coutume de choisir un certain ordre de science pour type univoque de l'univers de la connaissance, et de construire par rapport à ce type toute sa philosophie du savoir. Non seulement il néglige ainsi de façon systématique de vastes domaines du connaissable, mais il tend à ramener les diversités de la vie de l'esprit à un monisme noétique, plus stérile, certes, et moins excusable que le monisme ontologique des premiers philosophes. En revanche, bien des réalistes semblent disposés à payer la possession des choses d'un abandon des problèmes propres de l'esprit, et l'on voit de nos jours une nouvelle dogmatique culturelle identifiée au matérialisme dialectique, l'anti-idéalisme dont elle fait profession. Deux écueils ou deux repères, deux bornes entre lesquelles Maritain veut se situer. Vous le sentez, la ligne de partage est davantage autour du dogmatisme, de l'académisme que de la vie. Et Maritain propose le réalisme critique, le réalisme thomisme, ainsi défini. Nous espérons montrer ici que le réalisme thomiste, en sauvant par une méthode véritablement critique la valeur de la connaissance des choses, permet d'explorer dans son intimité l'univers de la réflexion et d'en établir, si l'on peut ainsi parler, la topologie métaphysique. Ainsi, la philosophie de l'être est en même temps, par excellence, une philosophie de l'esprit. Philosophie de l'esprit qui, pour lui, va s'appuyer sur saint Paul pour définir les directions de perception. C'est magnifique de lire dans cette préface combien Maritain va chercher à interpréter ces quatre dimensions citées dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3, verset 18. Donc, il s'agit de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur. Ces quatre dimensions, dit Maritain, ne concernent pas seulement la sphère ou l'hypersphère de la contemplation des saints, mais d'une façon générale, l'organisation et la structure fondamentale des choses de l'esprit, dans l'ordre naturel ou dans l'ordre surnaturel. Du point de vue noétique où nous sommes placés, disons que la longueur symbolise pour nous la façon dont la lumière formelle, qui caractérise un type de savoir, tombe sur les choses et détermine en elle une certaine ligne d'intelligibilité. À la largeur correspond la quantité sans cesse croissante des objets ainsi connus. À la hauteur, la différence de niveau créée entre les diverses sortes de savoir par les degrés d'intelligibilité et d'immatérialité de l'objet. Quant à la quatrième dimension, la profondeur, elle représente à nos yeux ces diversités plus cachées qui dépendent de la manière dont l'esprit, dans sa liberté, diversifie encore, d'après ses finalités propres, ses objets et ses manières de se conformer au réel. La différence entre la philosophie spéculative et la philosophie pratique est l'exemple le plus simple de telle diversité, mais ce n'est pas le seul. Reportons-nous en arrière, à la fin du livre. Et le chapitre s'intitule « Expérience mystique et philosophie » et en sous-partie « Les dons du Saint-Esprit ». La grâce sanctifiante et l'habitation de Dieu dans l'âme en état de grâce, voilà les fondements ontologiques, les principes premiers de l'expérience mystique. Quels sont les principes prochains de celle-ci, autrement dit, comment se réalise-t-elle? Pour une telle analyse théologique, deux caractères de cette expérience doivent avant tout retenir notre attention. En premier lieu, c'est une connaissance de mode suprahumain. En second lieu, c'est une connaissance par connaturalité. Vous voyez, le mot connaissance ne fait pas peur à Maritain, et c'est à ce titre-là que la mystique est réintégrée dans les degrés du savoir. C'est une connaissance de mode suprahumain et surnaturel. Le mode humain et naturel de connaître consiste à connaître par idée ou concept, et donc, en ce qui concerne les choses divines, par l'analogie des réalités créées sur lesquelles est mesurée la manière de signifier de nos concepts. C'est pourquoi la foi, bien qu'elle atteigne Dieu selon son intériorité même et sa vie propre, ne l'atteint ainsi qu'à distance et reste une connaissance médiate, énigmatique, comme dit saint Paul, en ce sens qu'elle use pour cela, comme nous le notions plus haut dans le livre, de moyens formels, proportionnés à notre mode naturel de connaître, concepts et formules conceptuelles, notions analogiques ou plutôt suranalogiques. pour connaître Dieu sans distance, autant que c'est possible ici-bas, en dépassant le mode humain et naturel des concepts, donc, comme y insiste tant Saint Jean de la Croix, en renonçant à toute conception distincte et à toute connaissance claire, il faut par suite absolument, non seulement une motion d'en haut, mais une régulation objective supérieure, en d'autres termes, une inspiration spéciale du Saint-Esprit. L'expérience mystique est une connaissance surnaturellement inspirée. Côte à côte de ces deux textes, celui de la préface et celui de la quasi-fin des degrés du savoir, permettent non seulement de comprendre l'analogie, je rappelle que l'analogie permet à une notion d'être utilisée, mais en même temps de changer de sens dans la manière dont elle est appliquée différemment à tel ou tel plan. Et aussi de mieux comprendre comment l'inspiration joue dans la capacité à s'élever à la connaissance, certes mystique, ça nous paraît une évidence qu'il faille être inspiré pour arriver à la connaissance mystique, c'est-à-dire à l'union ineffable au Christ, à Dieu, et à cette connaissance qui n'est pas distincte, qui n'est pas claire, puisqu'elle n'est pas conceptuelle, mais par ricochet, on peut tout à fait comprendre combien il est nécessaire d'avoir cette inspiration aussi pour avoir une clarté du concept. Maritain, dans une œuvre posthume, Approche sans entrave, va consacrer quelques pages à comparer les grands théologiens, les bons, et puis les moins bons. Le grand théologien, c'est saint Thomas d'Aquin, et Maritain, qui aime bien dessiner et faire des schémas, fait une sorte de chaîne torsadée, et il y a des flèches en haut, donc cette flèche est présentée comme un fleuve, on va dire, ou un ruban, et vous avez des flèches en haut et en bas. Et ces flèches vont s'ancrer ou bien dans la mystique, saint Thomas était un contemplatif éminent, et dans le réel. Et plus l'ancrage est articulé sur cette union au Christ, plus le tissu conceptuel est fin, précis. Et moins cet ancrage est fort dans la vie spirituelle, dans la vie d'oraison, donc dans la terre arable que se rend l'âme ou le cœur qui prie pour l'effusion de l'Esprit-Saint, pour l'inhabitation visible, tangible de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est toujours au fond du cœur de l'homme, mais le fait de se rendre terre arable permet une fécondité. Et on voit ce tissu conceptuel s'effriter, s'effilocher, je dirais même, il devient simplement des ressorts un peu fous, quand il n'y a plus cet ancrage dans la vie spirituelle. Ainsi, le philosophe reste d'abord un enfant de Dieu, comme le rappelle Olivier Messiaen.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Connaissance mystique, connaissance suranalogique et connaissance par connaturalité. Regardons de quoi il retourne. Il y a deux moyens, dit saint Thomas, de juger par exemple des choses de la chasteté. Avoir dans notre intelligence la science morale, qui crée en nous une proportion intellectuelle aux vérités concernant cette vertu, et qui, si l'on nous interroge sur celle-ci, nous fait répondre juste en consultant purement l'objet. Ou bien, avoir dans nos facultés de désir la vertu même de chasteté, avoir cette vertu incarnée, inviscérée en nous, ce qui nous permet de répondre juste, par mode non plus de science mais d'instinct, en consultant notre inclination, notre connaturalité avec la chasteté. Vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen de dépasser la connaissance par concept que d'user, pour le connaître, de notre connaturalité même, de notre connaissance, comme dirait Claudel, ou co-nativité avec lui. Qu'est-ce qui nous connaturalise radicalement à Dieu, écrit Maritain dans le 6e chapitre « Expérience mystique et philosophie de distinguer pour unir ou les degrés du savoir ». La grâce sanctifiante, par qui nous sommes rendus, consortes divinae naturae. Qu'est-ce qui fait passer à l'acte, fleurir en actualité opérative cette connaturalité radicale, la charité? Nous sommes connaturalisés à Dieu par la charité. La charité n'est pas un amour quelconque. Elle suppose la grâce sanctifiante dont elle est la propriété, et elle est à Dieu comme réellement présent en nous à titre de don, d'ami et de convive éternel. De plus, elle atteint immédiatement Dieu en tant même que Dieu, dans sa déité même, dans sa vie absolument propre et intime, dont il nous béatifiera. Elle l'aime en lui-même et par lui-même. Pour approfondir ce que nous exposent ici des théologiens comme Jean de saint Thomas, Joseph du Saint-Esprit, il faudrait de très longs développements. Je vais simplement passer par-dessus quelques pages de Maritain et vous lire ce texte splendide de Jean de saint Thomas. C'est en vertu même du don que Dieu nous fait de lui et de l'union que l'amour expérimente, que la sagesse mystique atteint les choses divines, rendues par l'amour plus unies à nous, plus immédiatement touchées et goûtées, et nous fait percevoir que ce qui est ainsi senti dans l'affection est plus haut et plus excellent que toute considération des vertus cognoscitives. Ou encore, la foi, dans son obscurité, atteint Dieu comme restant d'une certaine manière à distance, en tant que la foi est de ce qui n'est pas vu. Mais la charité atteint immédiatement Dieu en lui-même, s'unissant intimement à cela même qui est caché dans la foi. Et ainsi, bien que la foi règle l'amour et l'union à Dieu, en tant qu'elle propose l'objet, cependant, en vertu de cette union par laquelle l'amour adhère immédiatement à Dieu, l'intelligence est élevée par une certaine expérience affective, à juger des choses divines d'une façon plus haute que ne le comporte à elle seule l'obscurité de la foi, parce qu'elle pénètre et connaît qu'il y a plus de caché dans les choses de la foi que la foi elle-même ne le manifeste, y trouvant plus à aimer et à goûter dans l'amour, et de ce plus, dont l'amour lui fait éprouver qu'il est caché là, elle juge plus hautement des choses divines, sous un instinct spécial du Saint-Esprit. Maritain commente ce texte de Jean de saint Thomas, texte précieux, qui nous montre comment la sagesse mystique juge des choses de Dieu par une expérience affective qui porte sur cela même qui est caché dans la foi. C'est dans la mesure même où la réalité divine nous est cachée, absolument transcendante par rapport à toute idée créée, que cette sagesse secrète l'expérimente. Vous êtes vraiment un Dieu caché, un Dieu sauveur, d'autant plus sauveur et vivifiant que plus caché. L'âme chérit ces ténèbres de la foi parce qu'elle sait qu'elles sont fécondes, parce qu'elle sait, elle sent qu'en elle seule, elle peut goûter intimement et juger par expérience des profondeurs de son Dieu. Nous tenons ici une des racines théologiques de la doctrine de saint Jean de la Croix. Cherche-le dans la foi et l'amour comme un aveugle, ces deux guides te mèneront par des chemins que tu ne sais pas jusqu'au secret de Dieu. Il est caché en toi et tu ne te caches pas comme lui pour le trouver et le sentir. Si quelqu'un veut trouver une chose cachée, il faut qu'il se cache pour entrer là où elle est cachée. Et quand il l'a trouvée, il est caché comme elle. Toujours, tu dois le tenir pour caché et le servir caché en te cachant. Ainsi donc, commente Maritain, c'est de la connaturalité de la charité qu'use l'inspiration de l'Esprit-Saint pour nous faire juger des choses divines sous une régulation supérieure, sous une raison formelle, nouvelle, de telle sorte que nous atteignons alors dans l'obscurité de la foi non seulement un objet absolument surnaturel, l'ipséité divine en tant que telle, comme fait la foi théologale à elle seule, mais encore selon un mode de connaître lui-même, surhumain et surnaturel. Qu'en est-il du concept? Eh bien, par effet de ricochet, par reversement, on peut dire que le concept est toujours là et qu'il va avoir une autre manière d'être fécond. Les concepts ne sont pas supprimés, ce qui serait contraire à la nature même de notre intelligence, qui a besoin d'eux pour être en acte. Ils sont donc là, mais tous les concepts distincts se taisent, écrit Maritain. Ils dorment, comme les apôtres au mont des Oliviers. Et les concepts confus, qui interviennent et qui peuvent rester tout inaperçus, ne jouent qu'un rôle matériel. Je veux dire que si l'expérience mystique passe par eux, ce n'est pas comme par un moyen formel de connaître, mesurant et réglant la connaissance, comme c'était le cas par exemple pour le deuxième ou troisième degré d'abstraction, c'est sans être mesuré par eux qu'elle passe par eux, comme par des conditions requises du côté du sujet. C'est pourquoi ils peuvent être aussi confus, aussi indistincts, aussi peu discernables qu'on voudra. Son moyen formel et sa règle sont ailleurs. C'est la connaturalité de charité qui, sous la motion du Saint-Esprit, joue le rôle formel. La lumière propre de la contemplation infuse ne vient que de l'ardeur de l'amour luisant dans la nuit. C'est pourquoi cette sagesse suprême, cette connaissance surnaturelle d'amour que nous pouvons, dit Saint Jean de la Croix, comparer à une chaude lumière, est décrite comme une renonciation au savoir et une ignorance, un rayon de ténèbres pour l'intelligence, selon le mot de Denis l'Aréopagite. Contemplation apophatique ou négative, dit encore celui-ci, nous unissant expérimentalement au Dieu caché et supérieur à toute connaissance. Pourquoi s'arrêter sur cette connaissance par connaturalité, cette connaissance mystique? Eh bien, tout simplement parce qu'on touche là à un fil d'Ariane dans l'œuvre de Maritain, ce fil d'Ariane d'une vision très large de l'intelligence et qui va culminé après la guerre dans les écrits sur la loi naturelle. La loi naturelle sera pensée par Maritain comme préconceptuelle, par connaturalité, à l'opposé des Anglais comme Hume ou Hobbes. Et c'est là-dessus que nous reprendrons après Pâques. À bientôt.